Anatole France, le Puy de Saint-Clair, le mystère du sang. La ville de Sienne était comme le malade qui cherche en vain une bonne place sur son lit et croit en se retournant tromper la douleur. Elle avait plusieurs fois changé le gouvernement de la République qui passa des consuls aux assemblées des bourgeois et qui, confié d'abord aux nobles, fut exercé ensuite par les changeurs, les drapiers, les apothicaires, les fourreurs, les marchands de soie et tous gens adonnés aux arts supérieurs. Mais ces bourgeois s'étant montrés faibles et cupides, le peuple les chassa à leur tour et donna le pouvoir aux petits artisans. En l'an 1368e de la glorieuse incarnation du Fils de Dieu, la seigneurie fut composée de 14 magistrats choisis parmi les bonnetiers, les bouchers, les serruriers, les cordonniers et les maçons, qui formèrent un grand conseil appelé le Mont des Réformateurs. C'étaient des plébéiens rudes comme la louve de bronze, emblème de leur ville, qu'ils aimaient d'un amour filial et terrible. Mais le peuple qui les avait établis sur la République avait laissé subsister au-dessous d'eux les 12 qui étaient de la classe des banquiers et des riches marchands. Ceux-ci conspiraient avec les nobles à l'instigation de l'empereur pour vendre la ville au pape. Le César allemand était l'âme du complot. Il promettait ses lansquenets pour en assurer le succès. Sa hâte était grande que l'affaire fût faite. Content avec le prix de la vente, il pourrait retirer la couronne de Charlemagne engagé pour 1620 florins chez les banquiers de Florence. Cependant, ceux du monde des réformateurs qui composaient la seigneurie tenaient ferme la baguette du commandement et veillaient au salut de la République. Ces artisans, magistrats d'un peuple libre, avaient interdit à l'empereur, entrer dans leurs murs, le pain, l'eau, le sel et le feu. Il avait chassé, gémissant et tremblant, et il condamnait les conspirateurs à la peine capitale. Gardiens de la ville fondée par l'antique Rémus, ils imitaient la sévérité des premiers consuls de Rome. Mais leur ville, vêtue d'or et de soie, glissait entre leurs mains comme une courtisane lascive et perfide, et l'inquiétude les rendait impitoyables. En l'année 1370, ils apprirent qu'un gentilhomme de Pérouse, Sir Nicolas Tuldo, avait été envoyé par le pape pour engager les Siennois à livrer, de concert avec César, la ville du Saint-Père. Ce seigneur était dans la fleur de la jeunesse et de la beauté, et il avait appris au milieu des dames cet art de plaire et de séduire qu'il exerçait maintenant dans le palais de Salmeleni et dans les boutiques des changeurs. Et bien qu'il eût l'âme légère et l'esprit vain, il gagnait à la cause du pape force bourgeois et quelques artisans. Instruits de ces intrigues, les magistrats du monde des réformateurs le firent amener devant leur sérénissime conseil, et l'ayant interrogé sous le gonfalon de la République où l'on voit un lion qui s'élance, ils le déclarèrent convaincu d'attentat contre la liberté de la ville. Il avait répondu qu'avec un rire dédain à ses cordonniers et à ses bouchers. Quand il entendit prononcer son arrêt de mort, il tomba dans un étonnement profond et on le mena comme endormi dans la prison. Mais aussitôt qu'il y fut renfermé, s'éveillant de sa stupeur, il regretta la vie avec toute l'ardeur d'un sang jeune et d'une âme impétueuse. Les images de ses voluptés, armes, femmes, chevaux, se pressaient devant ses yeux, et à la pensée qu'il n'en jouirait plus jamais, il fut transporté d'un si furieux désespoir qu'il frappa des poings du front les murs de son cachot et qu'il poussa des hurlements tels qu'on les entendait tout alentour, jusque dans les maisons des bourgeois et dans les échoppes des drapiers. Le geôlier, accouru à ses cris, le trouva tout couvert de sang et d'écume. Sir Nicolas Touledo ne cessa pas de hurler de rage pendant 3 jours et 3 nuits. On en fit un rapport au nom des réformateurs. Des membres de la sérénissime seigneurie, ayant expédié les affaires pressées, examinèrent le cas du malheureux condamné. Léoné Rancati, briquetier de son état, dit « Cet homme doit payer de sa tête son crime envers la République de Sienne, et personne ne peut le racheter de cette dette, sans usurper le droit sacré de la cité, notre mère. Il faut qu'il meure. Mais cela met à Dieu qui l'a créé, et il ne convient pas que par notre faute, il meure dans le désespoir et dans le péché. Assurons donc son salut éternel par tous les moyens qui sont dans notre pouvoir. » Matteo Lorenzano, le boulanger, qui était renommé pour sa sagesse, se leva à son tour et dit « Tu as bien parlé, Léoné Roncati. C'est pourquoi il convient d'envoyer au condamné Catherine, la fille du Foulon. » Cet avis fut approuvé par toute la seigneurie, qui résolut d'inviter Catherine à visiter Nicolas Touledo dans sa prison. En ce temps-là, Catherine, fille de Giacomo le Foulon, parfumait de ses vertus la cité de Sienne. Elle habitait une cellule dans la maison de son père et portait l'habit des sœurs de la pénitence. Elle saignait sous sa robe de laine blanche une chaîne de fer et se flagellait chaque jour 1 heure. Puis, montrant ses bras couverts de plaies, elle disait « Mon âme est rose !» Elle cultivait dans sa chambre des lys et des violettes dont elle faisait des guirlandes pour les autels de la Vierge et des saints. Et pendant ce temps, elle chantait des hymnes en langue vulgaire à la louange de Jésus et de Marie. En ces tristes années où la ville de Sienne était une hôtellerie de douleur et une maison de joie, Catherine visitait les prisonniers, et elle disait aux prostituées « Mes sœurs, que je voudrais vous cacher dans les plaies amoureuses du Sauveur !» Et une vierge si pure, enflammée d'une telle charité, n'avait pu éclore et fleurir qu'à Sienne, qui, sous ses souillures et parmi ses crimes, restait la cité de la Sainte Vierge. Avertie par les magistrats, Catherine se rendit à la prison publique le matin du jour où Sir Nicolas Touledo devait mourir. Elle le trouva étendu sur le pavé du cachot, blasphémant à grands cris. Là, soulevant le voile blanc que le bienheureux Dominique lui-même, descendu du paradis, avait posé sur son front, elle découvrit au prisonnier un visage d'une beauté céleste. Comme il la regardait étonnée, elle se pencha sur lui pour essuyer l'écume qui lui souillait la bouche. Sir Nicolas Touledo, tournant sur elle des yeux encore farouches, lui dit « Va-t'en, je te hais, parce que tu es de Sienne qui me tue. Ô Sienne, vraie louve, qui enfonçait Croville dans la gorge d'un noble homme de Pérouse. Ô louve, ô lys immonde et sauvage !» Catherine lui répondit « Mon frère, qu'est-ce qu'une ville et que sont toutes les cités de la terre auprès de la cité de Dieu et des anges? Je suis Catherine et je viens te convier aux noces éternelles. » La douceur de cette voix et la clarté de ce visage répandirent tout à coup la paix et la lumière dans l'âme de Nicolas Touledo. Il lui souvint de ses jours d'innocence et il pleura comme un enfant. Le soleil, levé sur les Apennins, blanchissait la prison de ses premiers rayons. Catherine dit « Voici l'aube, debout pour les noces éternelles, mon frère, debout !» Et le soulevant, elle l'entraîna dans la chapelle où Fra Cattaneo l'entendit en confession. Sir Nicolas Touledo assista ensuite dévotement à la Sainte Messe et reçut le corps de Jésus. Puis il se tourna vers Catherine et lui dit « Reste avec moi, ne m'abandonne pas, et je serai bien et je mourrai content. Les cloches se mirent à sonner, annonçant l'exécution du criminel. Catherine répondit: Mon doux frère, je t'attendrai au lieu de la justice. Alors, Sir Nicolas Tuldo sourit et dit, comme ravi: Quoi, la douceur de mon âme m'attendra au lieu saint de la justice? Catherine songea et pria, disant: Mon Dieu, vous lui avez envoyé une grande lumière, puisqu'il s'appelle saint le lieu de la justice. Sir Nicolas dit encore: Oui, j'irai fort et joyeux. Il me tarde, comme si j'avais 1000 années à attendre, d'être là où je vous retrouverai. Unos, unos éternels, répéta Catherine en sortant de la prison. On servit au condamné un peu de pain et de vin. On lui donna un manteau noir. Puis il fut mené à travers les voies montueuses au son des trompettes entre les gardes de la ville, sous le gonfalon de la République. Les rues étaient pleines de curieux et les femmes soulevaient dans leurs bras leurs petits-enfants pour leur montrer celui qui allait mourir. Cependant, Nicolas Tuldo songeait à Catherine, et ses lèvres, longtemps amères, s'entouraient doucement comme pour baiser l'image de la sainte. Après avoir monté quelque temps la rue de chaussée de briques, le cortège atteignit une des hauteurs qui domine la ville, et le condamné vit tout à coup, de ses yeux qui allaient bientôt s'éteindre, les toits, les dômes, les clochers, les tours de Sienne, et au loin les murs qui suivaient la pente des collines. À cette vue, il lui souvint de sa ville natale, de la riante Pérouse, sainte de jardins, où les eaux vives chantent parmi les fruits et les fleurs. Il revit la terrasse qui domine la vallée du Trasimène, où le regard boit le jour avec délices. Et le regret de la vie déchira de nouveau son cœur. Il soupira: Ô ma ville, ô maison paternelle! Puis la pensée de Catherine rentra dans son âme et la remplit jusqu'au bord d'allégresse et de paix. Enfin, on parvint à la place du marché, où chaque samedi les paysannes de Camiano et de Granaiola étalent les citrons, les raisins, les figues et les pommes d'or, et jettent aux ménagères de vieux appels mêlés de propos salés. C'est là que l'échafaud était dressé. Sir Nicolas Tuldo y vit Catherine qui priait à genoux, la tête sur le billot. Il gravit les degrés avec une joie impatiente. Catherine, à sa venue, se leva et se tourna vers lui de l'air de l'épouse réunie à l'époux. Elle voulut même lui découvrir le col et placer son ami sur le billot comme sur un lit nuptial. Puis elle s'agenouilla près de lui. Quand il lui dit 3 fois avec ferveur « Jésus, Catherine !» Le bourreau abattit son épée et la Vierge reçut dans ses mains la tête coupée. Alors il lui sembla que tout le sang de la victime se répandait en elle et remplissait ses veines d'un flot doux comme le lait encore chaud. Une odeur délicieuse fit battre ses narines. Dans ses yeux noyés passaient des ombres d'anges. Étonnée et ravie, elle tomba mollement dans l'abîme des délices célestes. Deux femmes du tiers-ordre de Saint-Dominique, qui se tenaient au pied de l'échafaud, la voyant étendue sans mouvement, s'empressèrent de la relever et de la soutenir. La sainte, revenant à elle, leur dit « J'ai vu le ciel !» Comme une de ces femmes s'apprêtait à laver avec une éponge le sang qui couvrait la robe de la Vierge, Catherine l'arrêta vivement. « Non, dit-elle, ne m'ôtez pas ce sang, ne me prenez point ma pourpre et mes parfums. » Enfin.